France Inter, le 18-20.
92% des ados ont un smartphone. La moyenne pour le premier smartphone tourne autour de 11 ans. Et là, je ne vous apprends rien ou pas grand-chose. En revanche, ne me dites pas que vous n'avez jamais été tenté de savoir ce qu'ils peuvent bien se raconter pendant des heures, les 12-17 ans. Ne me dites pas que vous ne voudriez pas parfois rentrer, vous aussi, dans ces applis souvent mystérieuses. Il se passe quoi sur Snapchat? C'est le truc qui tire la langue, c'est ça? Avec les messages qui s'effacent. Mais du coup, ça sert à quoi, votre truc? C'est vrai que Facebook, c'est ringard, alors, ou que Twitter, c'est fait pour les vieux, désormais. Est-ce que tu peux rencontrer des gens que tu connais pas sur tes applis ou pas? Je demande parce que, selon le sondage BVA que j'ai là sous les yeux, 78% des ados sont sur un réseau social qui n'est pas forcément le vôtre, évidemment, en même temps qu'ils ont un smartphone. Ils sont 17% à avoir aussi déjà reçu des insultes, donc peut-être à en avoir envoyé également. 62%, tiens, intéressant à considérer que le smartphone est indispensable à leur vie sentimentale. 13% à avoir rompu par messagerie. Après tout, vous me direz, c'est moche de toute façon. Et parce que c'est pour leur bien, parce qu'il faut faire attention aux inconnus sur la toile, parce que ça vous rassure, vous êtes 43% à avoir le code de déverrouillage du smartphone de votre ado. Si c'est votre cas, est-ce que vous lui avez demandé ou est-ce que vous lui avez piqué? Est-ce que vous lui dites quand vous plongez dans l'appareil? Est-ce que vous le faites souvent? Est-ce que vous êtes amis avec vos enfants sur les réseaux ou pas? Est-ce que vous avez demandé à un oncle, à une tante de liker deux ou trois trucs pour avoir un œil sur ce que raconte votre fille sur sa page, son portable? Au fond, est-ce que c'est une alerte pour vous? Est-ce que c'est un dialogue? Faut-il s'immiscer dans la relation incroyablement intime que les ados entretiennent avec leur portable? Dites-le nous, par téléphone bien sûr.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Noémie, c'est vous la première. Bonsoir et soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Et on vous écoute Noémie, allez-y.
C'était pour initier, c'est un témoignage. Je suis une maman des années 60, enfin je suis née en 70, donc j'ai une petite cinquantaine d'années. Et j'ai une fille ado, à l'époque elle avait 14 ans. Et je l'ai vue de mal en pis, en perdition, avec des gros soucis. Et en fait, il m'est arrivé à un moment de cette époque où je m'étais interdit de fouiller dans les affaires de mes enfants et j'ai fouillé dans son téléphone. Habituellement, il y avait un code. Ce jour-là, il n'y avait pas de code. Allez, voilà, un appel peut-être. Et j'ai découvert des choses qui m'ont fait supprimer le téléphone. Terminé. Pendant 3 mois, elle n'a plus eu de téléphone du tout. C'est juste un appel pour dire à tous les parents, et dans ma vie professionnelle, j'ai des parents un peu à l'aide aussi, comme ça, qui n'ont rien à voir avec la psychologie en général, mais c'est juste oser. Ça doit être temporaire, ça doit être mesuré, mais oser. Quand ça devient toxique, ça devient toxique. On n'a pas l'habitude, nous, les parents cinquantenaires, on ne sait pas, quoi. Voilà, j'ai pas été élevée avec ça. Et ça a été, et ma fille, aujourd'hui, ces 3 mois, avec d'autres accompagnements, ont été salvateurs. Et j'ai retrouvé ma fille aujourd'hui. Elle a retrouvé son téléphone, elle a 16 ans, elle a une vie épanouie, comme on peut rêver pour une jeune fille. Hein. Mais vraiment rêver pour une jeune fille aujourd'hui.
Et Noémie,
il y a un an et demi.
Et Noémie, juste, alors je vais pas être indiscrète, mais donnez-nous la teneur de ce que vous avez trouvé qui a provoqué...
Drogue, pornographie,
d'accord. Et quand on dit, alors pornographie, on voit ce que c'est. Drogue, ça veut dire aussi que ça veut dire qu'on sait comment aller la chercher, en fait, c'est ça l'idée, en fait.
Par les copains de son âge.
Mm-hmm.
Par des mauvaises relations, si vous voulez, qui ont été faites de fil en aiguille via les réseaux sociaux, effectivement. Aujourd'hui, ma fille, elle a plus du tout les mêmes relations. Elle a retrouvé des relations saines avec un troupeau de jeunes gens, mais adorables. Mmh. Ils vont en festival,
Ça va beaucoup mieux, on sent bien, et on sent bien votre soulagement aussi. J'ai juste une dernière chose pour vous, Noémie, oui. Si vous le voulez bien. Donc, vous supprimez le portable, et en même temps, moi, je trouve ça intéressant, les 3 mois, en fait. Parce que, pour une ado, j'imagine que 3 mois, ça peut être le bout du monde. Et en même temps, c'est pas beaucoup en soi, 3 mois. Ça veut dire qu'aussi, vous comprenez jusqu'à quel point, c'est important, cette punition, finalement, que de retirer le portable.
J'avais pas prévu 3 mois, hein. Je lui ai redonné quand j'ai ressenti qu'elle reprenait pied dans la vie, hein.
D'accord. Et sans craindre ce qu'elle pouvait à nouveau trouver sur le portable.
Non, c'était fini, c'était passé.
Okay. Merci beaucoup Noémie pour cette entrée en matière et qui est une bonne entame pour ce téléphone sonne pour discuter ensemble toute la soirée.
Parce que j'ai une autre petite fille et on est toutes les trois auprès du poste.
Eh ben écoutez, continuez, restez bien au chaud auprès du poste, c'est comme ça que ça marche et c'est ça qui est bien dans le téléphone sonne. Merci à vous. Boris Manantier est avec nous. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Nouvel Obs, vous avez écrit, vous êtes co-auteur de Portable, la face cachée des ados, et Samuel Comblet est là également. Bonsoir. Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfance. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, Samuel Comblet, je vais commencer avec vous dans le témoignage de Noémie. D'abord, il y a l'idée qu'à un moment, effectivement, il y a un problème avec sa fille, mais on sait exactement où aller chercher, en fait. Mm-hmm. Ça se passe dans le portable.
Exactement.
C'est là que ça commence, en fait.
Bah, c'est vrai que le portable, Noémie, en témoigne clairement, a changé notre façon d'interagir, notre façon d'être en relation avec les autres. Les adolescents, vous l'avez rappelé dans les pourcentages, passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je pense qu'en tant que parent, il est tout à fait légitime d'être un peu perdu dans la façon dont on doit accompagner son adolescent, ses enfants, dans la manière d'utiliser ces outils numériques. Je trouve que le témoignage de cette maman, il révèle bien que il faut continuer à être vigilant, qu'on peut pas transmettre un téléphone portable sans contrôle, sans un regard critique de la part des adultes. Je fais souvent le parallèle pour faire comprendre l'importance de la chose. Quand on transmet un téléphone portable aujourd'hui à un enfant de 12 ans, qui est en général l'âge à partir duquel on commence à
avoir...
C'est
l'entrée en sixième en général.
Exactement, voilà,
en
France, c'est une espèce de moment solennel comme ça, à partir duquel on va avoir son téléphone portable de manière complètement autonome. Bah, pour moi, si on le transmet sans règles, sans consignes, c'est un peu comme de donner un marteau à un enfant de 4 ans et lui dire voilà, c'est un marteau et fais-en ce que tu en veux. Un marteau, on ne transmet pas à un enfant jeune.
Y compris taper sur la tête
jeune.
De ta petite sœur.
Exactement.
Non.
Un marteau peut être un bon outil pour clouer un clou, mais ça peut aussi devenir une formidable arme si on le jette sur la tête de son petit camarade. Or, on peut donner tout à fait un marteau à un enfant de 4 ans, ça pose pas de problème, mais il faut lui expliquer les règles et rester vigilant. Ben là, c'est un petit peu ce que nous dit Noémie, c'est que transmettre sans règles, sans surveillance, ça ne fonctionne pas. Il faut rester vigilant et intervenir quand il le faut.
Boris Mananti, moi, c'est 43% de parents qui ont les codes des enfants. J'ai trouvé que c'était beaucoup, en fait. Alors, je sais pas, peut-être que je sais pas, c'est beaucoup ou pas.
C'est difficile à dire. Moi, ça me paraît pas tant que ça, au final. C'est à peu près la même proportion dans les couples.
C'est
donc,
vrai
ouais.
Ah oui,
l'un connaisse le code de l'autre.
D'accord, ok.
Donc, c'est pas si énorme que ça. Après, c'est est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que c'est juste connaître le code ou est-ce que c'est pour aller régulièrement fouiller dans le téléphone?
De ce que vous avez vu, vous, et de ce que vous avez pu enquêter, est-ce qu'au fond, on a les codes au début, à 12 ans, quand on donne le portable aux enfants de 6e, parce que c'est pour se rassurer, dis-moi quand t'es sorti de cours, etc. Et au fur et à mesure, on lâche du lest. Et lâcher du lest, ça veut dire qu'on lâche aussi les codes, en fait. Est-ce que c'est comme ça que ça marche ou pas?
Dans l'idée, on peut mettre quelques règles au départ, c'est même conseillé de mettre des règles, mais elles vont évoluer avec le temps et avec l'enfant. Évidemment, l'adolescent n'est pas le même à l'entrée au collège qu'à la fin du lycée.
C'est quoi ce rite de passage au fond? C'était quoi le rite de passage au fond finalement quand on allait en sixième qui a été remplacé? Je m'adresse à tous les deux à la fois, je ne vais pas vous piéger. C'était quoi le rite de passage nous les vieux à l'époque où on entrait en sixième? Qu'est-ce qu'on nous donnait qui faisait qu'on était adulte, qui a pu être remplacé aujourd'hui par le portable? Au fond, peut-être que ça n'existait pas en fait.
C'était la responsabilité de rentrer tout seul et que
là
du coup il y a ce côté de se rassurer en tant que parent en fournissant le portable, il va rentrer tout seul et s'il y a quoi que ce soit il pourra m'appeler même si on sait que dans les faits, ils n'appellent pas beaucoup les parents.
Non, alors ça c'est intéressant aussi dans le fameux sondage BVA dont je parlais, il y a un chiffre sur les enfants qui rappellent volontairement leurs parents. Donc sous-entendu, des fois avec un flingue sur la tempe, éventuellement je rappelle, mais sinon non. Au fond, ça sert pas du tout à téléphoner un portable aujourd'hui dans cette génération-là, Boris Mananti.
Téléphoner dans le sens où on l'entend, non, plus du tout. On passe plus d'appels via la fonction
téléphonique. On donne même pas son 06. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on donne son 06 aujourd'hui?
Non, plus vraiment. Sauf pour se retrouver sur une application comme WhatsApp. En revanche, si je prends l'exemple de WhatsApp, on laisse beaucoup de messages vocaux. C'est comme un SMS mais vocal, en quelque sorte, qu'on s'envoie et qu'on écoute quand on a le temps. Et alors ça, ils le font beaucoup.
Samuel Comblet, l'usage détourné au fond, ça s'appelle un téléphone, c'est plus un téléphone. Bientôt, peut-être qu'on aura dans la poche quelque chose qui ne servira même plus à appeler, puisqu'en effet, même nous, on n'appelle plus en fait.
Exactement, et puis de plus en plus, on appelle plus ça maintenant un téléphone, on parle d'un ordinateur qui fait aussi téléphone. C'est vrai qu'on a dans un seul outil, plein d'outils aujourd'hui, on peut écouter de la musique, regarder la télévision, communiquer, et c'est vrai que les adolescents se détournent de plus en plus de la relation orale et privilégient de manière assez inattendue, d'ailleurs beaucoup plus l'écrit. Les jeunes écrivent énormément. Alors, pas forcément de manière totalement respectueuse de l'orthographe,
dire,
voilà.
Oui.
Mais au moins ils écrivent.
Si je peux me permettre, c'est une manière de décrire très créative.
Exactement.
Sur un
absolument.
Snapchat, on met plein d'images, on joue avec les mots, avec les visuels, c'est
ouais.
intéressant.
Exactement. C'est une autre façon très créative, effectivement, de communiquer avec l'autre. Alors après, il faut, quand on retourne à l'école, ne pas oublier quelques règles pour ne pas parler de la même manière. Mais c'est assez étonnant de se rendre compte de cette capacité d'écriture et de se rendre compte malheureusement aussi de la pauvreté avec laquelle ils sont capables d'interagir au téléphone. On a des jeunes qui de plus en plus sont incapables de savoir comment se présenter ou comment répondre à un appel téléphonique. Et c'est assez étonnant de voir cette évolution de la façon de communiquer.
Noémie, tout à l'heure, nous expliquait que les parents étaient parfois perdus, en fait, qu'ils ne savaient pas comment ça marchait, ces applis. Ouais. C'est pour ça que je voudrais qu'on écoute François. Bonsoir, François.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, François.
Oui, non, mais moi, j'ai trouvé un moyen de communication sur Snapchat. Vous entendez parler tout à l'heure d'une crainte sur Snapchat. Et en fait, moi, j'ai découvert, enfin, mes filles m'ont fait découvrir, et je trouve que c'est un excellent moyen de communication. Vous disiez tout à l'heure que c'est créatif, effectivement. Ça mélange le graphisme, le texte, l'image, la vidéo, la photo. Et je trouve que c'est je pense qu'il faut pas hésiter à y aller sur certains réseaux. Celui-là, en tout cas, je le trouve très sympa. C'est plutôt un truc de jeunes. D'ailleurs, on se sent envie de vieux quand on en parle autour de nous. Mais en fait, c'est vraiment un truc agréable comme type de communication, un peu intime en tout cas. Ça nous amène sur des trucs plutôt drôles, plutôt décalés. Et ce qu'on n'a pas sur les autres, ce qu'on n'a pas en texto, ce qu'on n'a pas sur Facebook ou ailleurs. Et donc, on peut avoir une relation aussi individuel, proche, intime, avec ce réseau-là, que j'ai découvert il y a quelques années, et j'essaye d'en parler autour de moi, y compris chez les adultes, et c'est vrai qu'il y a une méfiance sur Snapchat, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, quand on y va, c'est plutôt sympa.
Parce que c'est un truc de très jeune, en fait.
Parce qu'on ne sait pas comment.
Mais comment ça marche, d'ailleurs, François, c'est-à-dire, est-ce que vous envoyez un message à vos enfants, par exemple, comme sur un WhatsApp, au fond, ou est-ce que il faut être déjà ami, c'est-à-dire, en gros, est-ce que vous pouvez voir ce que font vos enfants sur Snapchat, indépendamment de vous?
Non, ils ont leur propre vie avec leurs amis. Et donc, c'est des choix. Moi, je dois avoir, cinq amis sur Snapchat
voilà. Si vous voulez, on va être amis avec vous, François. Ça vous fera du sens, visiblement. Ça vous
mais en fait, vous envoyez quand avec vos enfants, vous avez une intimité que vous n'avez pas, vous n'avez pas avec d'autres personnes. Donc, on est sur un truc où on peut faire des blagues, on peut envoyer des choses assez drôles. Et ça crée, une relation, à mon avis, que, enfin, moi, j'ai découvert un type de relation que je suis content d'entretenir que j'ai pas avec autre chose qu'on n'a pas forcément avec le téléphone parce qu'effectivement quand on est au téléphone on est sur des choses plus sérieuses souvent
à quelle heure tu rentres, t'es où, etc. c'est pas du tout le même genre de choses,
sur un truc un peu loisir, un peu plaisir, un peu intime, où l'humour est plus présent en tous les cas.
Merci beaucoup pour ce témoignage, François Samuel Comblet. Voilà. Parfois, c'est simple d'essayer de comprendre où sont les gamins, en fait.
Oui, je trouve très, très touchant ce témoignage parce que d'abord, on entend un papa joyeux et positif quand il parle des réseaux sociaux. Moi, je suis toujours étonné de la façon dont les parents se disqualifient eux-mêmes quand il s'agit d'accompagner leurs enfants sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce qu'ils ont l'impression que sous prétexte que c'est du numérique, qu'ils ont un certain âge et qu'ils n'ont pas connu ça quand ils étaient plus jeunes, ils seraient devenus soudainement incapables de transmettre des valeurs, une façon de se concevoir, de concevoir la relation aux autres, etc. Ce dont je me rends compte, c'est que quand on ose un peu s'intéresser à ce que font les adolescents sur Internet, sur les réseaux sociaux, quand on passe un petit peu de temps pour comprendre quel est leur mode de fonctionnement, quand on critique aussi ce qu'ils font dans leur façon d'utiliser certains termes, dans la façon d'interagir avec les autres, on se rend compte que d'abord on apprend beaucoup, que les adolescents sont très soucieux d'apprendre aux parents comment ça fonctionne, et surtout on se rend compte que ça dédramatise beaucoup les situations parce que les parents se disent à l'exemple de votre auditeur qui vient de parler, c'est pas si grave, et ça peut même être assez intéressant de se rendre compte de ce qui se passe.
Et en même temps, Boris Manonti, moi j'ai l'impression que en gros les ados y vont d'abord, mais quand les adultes y vont, ils s'en vont du coup vers un autre réseau social. C'est peut-être un peu ce qui s'est passé avec Facebook, que finalement les plus jeunes ont quitté, donc il n'y a plus que nous les vieux là-dessus.
Ou les plus jeunes ont vieilli, c'est selon.
Ou pareil, à un moment Instagram a été très très populaire, alors l'est toujours énormément, mais c'est plus du tout la même tranche d'âge que Snapchat par exemple. Au fond, quand ça devient super populaire, boum, on change, non? Il n'y a pas un peu de ça?
on trouve toujours la petite appli où on n'aura que son cercle d'amis et où du coup les parents en seront totalement exclus. Mmh. Après, Snapchat reste dans une logique très très jeune. C'est vraiment un usage pour les plus jeunes. Et l'auditeur a très bien compris en plus comment ça fonctionnait avec ses enfants. Snapchat a beaucoup bouleversé les ados puisque c'est la seule appli où on avait le droit d'être moche. Mmh. On s'assouvre sur le téléphone, on s'assouvre sur l'appareil photo et on partage tout de suite son intimité, un peu comme on se raconterait dans un journal intime qu'on partagerait à ses amis, mais que à des amis précis qu'on choisit un à un. Et potentiellement ses parents aussi.
Et ça disparaît, c'est ça, sur Snapchat?
Ça disparaît au bout de 24 heures pour la story et au bout de quelques secondes pour le message.
Ce qui donne aussi des messages qui sont d'une autre teneur, en fait. Mais pourtant, il y a des histoires de choses sur Snapchat qu'on a vu devenir virales, même si le principe est la disparition.
Ah, mais évidemment, on peut faire des captures d'écran et détourner un peu le concept.
Et ce qui se passe parfois. Bonsoir, Eric. Eric, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous croyez que vous avez perdu parce que vous aviez le nez dans votre portable, dites-moi.
Non, je ne suis pas sur un portable, je suis sur un fixe. Déjà.
Ah bah, comme vous y allez. Allez-y, Eric, on vous écoute.
Oui, alors, bon, déjà, moi, je trouve qu'il est totalement irresponsable de confier des smartphones à un enfant de moins de 15-16 ans. Donc ça, c'est réglé. Tout comme il est irresponsable de mettre la télé dans la chambre d'un enfant qui a à peu près le même âge. Un enfant entre 8 et 12 ans, on mange avec lui, on lui parle, on fait des activités, on sort, on ne le laisse pas tout seul avec un appareil, avec une ouverture sur le monde qui peut être extrêmement dangereuse et nocive. Et s'agissant de l'espionnite aiguë de certains parents, je trouve ça totalement scandaleux. C'est-à-dire que on n'a pas à s'immiscer dans la vie intime de son ado. Moi, je pense déjà donc à des ados de 16, à partir de 16 ans. Hein. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai jamais fouillé dans le portable de mon fils. Il a eu un smartphone à partir de l'âge de 16 ans. J'ai jamais fouillé, je lui ai jamais demandé. Alors évidemment, si je sens un problème, si je sens qu'il est malheureux, qu'il est frustré dans un coin, évidemment que je vais le sentir et que je vais intervenir, ou ma femme aussi va intervenir. Mais l'espionnite, je trouve ça immonde. Absolument immonde.
Et ben voilà qui est clair, Eric. Merci beaucoup pour votre appel.
De rien.
Deux choses, Samuel Combe. D'abord, Eric nous dit pas avant 15-16 ans. Alors, les parents ont droit de fixer l'âge, évidemment, mais est-ce qu'on peut vraiment interdire le portable avant 15-16 ans? Est-ce que ça devient pas compliqué?
Je pense que c'est compliqué. Alors, c'est vrai, je comprends tout à fait sa réaction vive de dire ça peut être dangereux de le confier avant 15 ans. Je pense que maintenant, les adolescents sont quand même très connectés. Quand on est un adolescent, on a besoin de faire partie d'un groupe, et quand on fait partie d'un groupe, on a aussi besoin d'exister
sur le plan numérique. Sondage BVA,
exactement. Ouais. Donc exister sans téléphone portable, bien évidemment, c'est possible, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les adolescents ont besoin aussi d'avoir une identité numérique et d'exister sur les réseaux sociaux pour continuer à progresser. Je pense que vraiment, enfin peut-être le juste milieu à trouver, c'est pas de tout interdire, mais c'est peut-être d'éduquer tout simplement, de pouvoir être, d'agir en prévention, de pouvoir enseigner les bonnes règles, d'avoir des retours réguliers sur ce que les jeunes peuvent faire de leur portable, de temps en temps d'avoir des temps de déconnexion, hein, comme votre première auditrice qui, visiblement, elle a retrouvé un équilibre de vie avec sa fille, et je pense que de temps en temps, on peut proposer ça, et vraiment d'utiliser le portable à bon escient dans ce qu'il est en capacité de nous apporter, et de ne pas oublier que la vie ne doit pas tourner uniquement dans l'environnement numérique, continuer à faire du sport, continuer à aller au théâtre, à écouter la radio, etc., fait partie aussi des choses qu'on a besoin de faire quand on est un adolescent.
Boris Manandi, le terme d'Eric, l'espionnite. Effectivement, il y a un côté, il n'y a plus de journaux intimes aujourd'hui, ou très très peu, c'est un peu la même chose au fond. Hein.
C'est ça le nouveau journal intime. Toute la vie de l'adolescent est partagée via son téléphone.
Et donc, c'est ça le paradoxe au fond, parce qu'il raconte des choses très intimes que les parents n'ont pas le droit d'aller voir, et en même temps, il les raconte comme jamais il les a racontées. Le journal intime,
qui approche du contraire, était le seul à lire. Un petit peu comme c'était le cas pour les blogs, où on n'avait pas forcément conscience que c'était complètement public et où il y avait déjà des dérives, mais où ça se partageait complètement en ligne.
Est-ce que du coup, est-ce que les ados, selon vous, ont plus conscience aujourd'hui qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on raconte, parce que l'explosion, le côté viral peut intervenir extrêmement vite? Est-ce qu'on fait finalement moins d'erreurs, en fait, aujourd'hui? Est-ce qu'ils font moins d'erreurs à raconter leur vie un peu partout qu'ils pouvaient en faire il y a même encore 2 ou 3 ans, ou pas du tout?
Je dirais que ça dépend. Ça dépend sur quels sujets. Ils savent très très bien se donner un rôle en ligne, ils savent très très bien jouer de leur vie numérique, qui n'est pas déconnectée de la vie réelle, c'est un prolongement. Après, oui, ça arrive de faire des erreurs. Peut-être qu'on voulait évoquer l'envoi de photos un peu dénudées.
Par exemple. Mmh.
Donc ça, c'est une problématique qui se pose beaucoup chez les ados sur est-ce que j'envoie des photos de moi un peu dénudées à mes proches, à mon petit copain, à ma petite copine, à la personne avec qui je suis en train de flirter, ou alors sous pression de certaines personnes qui peuvent m'être proches. Et là, il peut y avoir effectivement des dérives. Il faut évidemment les prévenir de toutes les dérives possibles. Une photo un peu dénudée envoyée à quelqu'un, en moyenne, est montrée 7 fois, je crois qu'il y a eu une étude là-dessus. Il n'y a pas qu'une seule personne qui la voit, donc
il faut bien en avoir conscience. Et 17% disent qu'ils ont déjà reçu des insultes, par exemple, ce qui doit vouloir dire honnêtement que ce chiffre est plus important que 17, en fait. Non,
ça me paraît très peu.
Moi aussi, oui. Absolument, ouais. Samuel Comblé, ouais, ça fait partie de ces choses reçues et envoyées, d'ailleurs.
Hein, exactement, oui, ouais, je suis d'accord. Hein, c'est vrai que la nudité, aujourd'hui, prend beaucoup de place sur les réseaux sociaux pour pouvoir envoyer des photos dénudées. La pornographie, également, est malheureusement un moyen que les jeunes utilisent pour se forger une idée de la sexualité qu'ils auront à vivre plus tard. Et c'est vrai qu'on a besoin, je pense, de leur rappeler et d'être prudent en tant que parents pour leur dire que la sexualité, c'est un spectacle et qu'il faut la regarder comme telle et pas uniquement comme quelque chose qui va nous servir à enseigner une pratique que, de toute façon, on sera amené à découvrir par soi-même dans l'intimité d'un couple et pas parce qu'on va reproduire quelque chose qu'on aura vu sur des sites pornographiques qui sont en général très éloigné de la sexualité que les adultes vivent au quotidien.
Jackie, je vois que ça fait 24 minutes que vous attendez. Pardon, et on vous écoute.
Vous êtes toutes pardonnées, Fabienne.
Super.
Bonsoir, France Inter.
Bonsoir. Alors, à vous.
Oui, je vais pas être redondant parce que la personne d'avant a posé la question que je voulais poser. Ça tombe mal, hein.
Mais non, ben non, moi, je vous en prie.
J'ai quand même quelque chose à dire, là, je vais vous le dire. voilà, alors... Effectivement, pour moi, c'est une forme d'éducation, un nouvel outil. Le téléphone, il a 20 ans. Il y avait même pas 1 million d'abonnés en 2000. On est en 2018, il y en a 30 et quelques millions. Et c'est un outil donc qui est arrivé comme ça et que on a même les anciens, on a même un petit peu, enfin, on aime bien. On a aussi du mal à l'appréhender parfois, même si c'est bien rentré dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un outil supplémentaire. Donc les enfants, ils ont besoin d'une éducation sur cet outil qui est effectivement dangereux, comme on vient de le dire. Mais en même temps, est-ce que c'est, Fabienne, est-ce que c'est pour les ados ou c'est pour les enfants, cette question?
Ben, ça dépend à quel âge on considère que l'adolescence commence. C'est pour vous, ça, Samuel Comblé. Est-ce qu'on dit quoi? Ado, désormais, c'est 12 ans, non? C'est ça que ça veut dire?
Oui, alors après, il y a effectivement plein de façons d'appréhender l'adolescence. On peut considérer que l'entrée au collège signe aussi en même temps l'entrée dans l'adolescence. On peut considérer que plus on est autonome, plus on devient aussi, on tend vers l'âge adulte et on devient adulte quand on est complètement séparé de ses parents et qu'on peut vivre par soi-même. Donc la question effectivement se pose, est-ce qu'il faut donner un téléphone à un enfant ou à un adolescent et à partir de quand on l'estime? Je pense que quand on a tendance à pouvoir faire confiance, quand on peut faire confiance à son adolescent et qu'on peut lui laisser une certaine autonomie, je pense qu'on peut transmettre le portable de manière complètement autonome.
Jackie, vous avez des enfants, vous avez donné un portable. Vous avez des enfants ou pas, Jackie?
Oui, j'en ai 4 et il y en a un qui a moins de 18 ans encore, 17 ans. Et donc, je pense que c'est une question d'éducation, en fait. Il faut effectivement apprendre cet outil de communication comme quelque chose de nouveau. On a toujours interdit aux enfants à faire des choses avant, et donc il faut continuer à le faire parce qu'effectivement c'est dans l'ordre des choses et qu'il faut savoir leur donner les bases, c'est-à-dire lorsqu'ils sont curieux des nouvelles technologies, leur apprendre ce que c'est, etc., et leur dire à partir de 14 ans ou de 15 ans, tu auras un téléphone portable et tu pourras t'en servir. Maintenant, une fois qu'on a donné les bases et les clés et l'éducation qui va avec, parce que c'est un outil très puissant. Là, on parle de réseaux sociaux, on parle de beaucoup de choses. Avant tout, c'est un outil de communication qui permet de relier les gens. Donc, c'est vrai que c'est puissant. Maintenant, c'est un outil comme les autres. Il faut donner des bases à partir du moment où on est jeune. Et quand on est à partir de l'adolescence, on dit, voilà, on te donne maintenant les clés d'un portable. Mmh. Et l'intrusion, ce qu'a dit l'auditeur, la personne qui a appelé avant, effectivement, elle a raison. L'intrusion dans la vie privée ensuite de l'enfant, c'est comme si on violait son journal privé. Et on sait que ça a des résultats très négatifs.
Au contraire, il faut favoriser l'éducation et ensuite transmettre. C'est encore une question de transmission.
Voilà, Jackie, bah, écoutez, je ne sais pas ce qu'on peut répondre à ça, si ce n'est que chacun, effectivement, Boris Manetti, chacun voit aussi avec son enfant comment ça fonctionne, comment il le sent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme le lâcher dans la rue, on sait qu'il saura regarder à gauche et à droite.
Il ne faut jamais perdre de vue que donner, comme le disait l'auditeur précédent, donner l'accès à un téléphone portable, c'est donner l'accès à l'Internet, donc à une fenêtre sur le monde, dans tout ce qu'il a de bon et dans tout ce qu'il a de moins bon. Et la pornographie, on y est vite, très très vite confronté.
Eh bien précisément, bonsoir Mathilde.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Mathilde. Allez-y, rapidement.
Alors, moi, je suis une grand-mère. Et bon, j'ai pas Facebook et tout ça. J'ai un portable, bien évidemment, dont je me sers pas aussi souvent que les jeunes. Donc, grâce au code qu'on avait de Facebook et du portable d'un de mes petits-enfants qui étaient à l'époque jeunes adolescents en collège, moi, je le gardais. Et nous, les grands-parents, on s'est aperçus, on dialogue beaucoup avec eux et on s'est aperçu qu'un n'allait pas super bien et tout. On a repéré des petites choses. Et j'ai dit très vite à ma fille d'aller voir sur son portable. Elle avait le code et surtout sur Facebook. Et là, on a décelé une histoire de pédophilie qui a été aussitôt... la personne a été jugée. C'est un vrai pédophile. Donc, moi, je dis merci à Facebook. Bien, je n'ai pas Facebook, mais je me dis... et surtout, merci. On est beaucoup dans la parole. On explique des choses. Et moi, je suis d'accord avec Eric tout à l'heure qui disait qu'il ne faut pas fouiller. Moi, je fais partie d'une génération où fouiller, on regardait le journal intime et tout. Donc, j'ai jamais reproduit ça avec mes enfants. Même si c'était sous mon nez, je ne regardais absolument pas. J'avais l'impression, j'aurais eu l'impression de violer leur espace intime. Attention, bien sûr, comme ce que je viens d'entendre, ils ont un outil entre les mains, etc. Mais nous, grâce, dans notre famille, c'est grâce au fait d'avoir les codes, etc., qu'on a pu, entre guillemets, le sauver et déceler une personne qui mettait en danger d'autres jeunes.
Ça veut dire que vous avez été voir sans qu'il le sache, ou est-ce que vous lui avez dit, tu sais ce qu'on va faire, on va aller voir sur ta page.
Et puis après, on lui a dit, oui, on n'a pas fait, de toute façon, comme il y a eu des démarches, il y a eu jugement, etc. et tout. Donc, la première chose, c'était d'aller voir et de l'alerter aussitôt, de lui dire ce qu'on avait fait, pas s'excuser, mais de lui dire, on prend soin de toi, on a l'impression qu'en ce moment, ça va pas bien, et puis voilà. Donc,
merci pour ce témoignage, Mathilde. Samuel Comblé, alors il y en a des cas comme ça, on a beaucoup d'appels. Effectivement, heureusement que j'avais ces codes-là et comme ça j'ai pu aller voir. Mm-hmm. C'est toujours compliqué, j'imagine, de dire à un gamin donne-les-moi tes codes, parce que visiblement t'as l'air de pas aller bien. On va voir si c'est quelque chose sur ta page en fait.
Oui, alors ce que je retiens de ce témoignage, c'est que surtout Mathilde a été est restée en veille sur ce petit-fils qui n'allait pas bien. Je pense que c'est le plus important, c'est de pouvoir, quand il y a un signe d'alerte qui demeure assez inquiétant, et visiblement ce jeune n'allait pas très bien, de pouvoir se poser les questions. Alors, est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est dans son cadre scolaire? Est-ce que il faut aller chercher dans le milieu familial? En tout cas, elle a su visiblement se poser les bonnes questions. Et alors après, on peut utiliser n'importe quelle méthode. Là, elle a choisi cette méthode-là. Mais je pense qu'on peut aussi peut-être rappeler qu'Internet aujourd'hui draine à peu près tout ce que la société peut drainer comme problème. Là, on parle de problèmes de pédophilie, on pourrait parler de harcèlement, on pourrait parler de théorie du complot, on pourrait parler de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie. Enfin, voilà, on disait tout à l'heure, les adolescents ne font pas tellement de différence entre ce qu'on appelle parfois la vraie vie, la vie réelle, et ce qui se passe sur Internet. Pour eux, c'est une prolongation naturelle de la vie, et donc il est normal de continuer à les protéger de tous ces risques, même sur le plan numérique.
Mais peut-être du coup, Boris Manetti, ce qui manque, c'est d'expliquer quelques petites choses, en fait, au moment où on donne le smartphone aux enfants quand ils sont très jeunes, qu'ils ont 12 ou 13 ans, au fond.
C'est même pas que quand on le donne, c'est tout au long, en fait. Je pense que, comme cet outil draine énormément d'inquiétudes, on se pose souvent cette question, mais qu'est-ce qui fait le nez arriver sur son écran? Justement, faisons-en un sujet de conversation. Forçons-nous à parler régulièrement de, au fait, qu'est-ce qui se passe dans le téléphone, qu'est-ce qui se passe sur ces applis que je connais ou pas. C'est pas grave quand on connaît pas Snapchat ou une autre appli. C'est qu'est-ce qui s'y passe. Montre-moi la petite vidéo qui, mais même des choses anodines. Montre-moi la petite vidéo qui te fait sourire en ce moment.
Même si tu m'as fait avec des oreilles et une langue.
Par exemple. Mais comme, et du coup, instaurer un climat de confiance pour que le jour où il y a un problème, le jour où il se passe quelque chose, peut-être que l'adolescent sera plus à même d'en parler.
Eh bien justement, voilà un d'ado. Bonsoir Edouard.
Bonsoir.
Salut. Salut Edouard, tu as 14 ans.
Oui, c'est ça. J'ai une voix très grave, c'est possible.
Mais c'est pas grave. Non, c'est... on te croit.
Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il serait possible, d'une certaine manière, d'apprendre aux parents à appréhender le fait que Internet peut être également, au-delà des réseaux sociaux et tout ça, un outil de communication et d'apprentissage de savoir immense. Par exemple, sur YouTube, il y a plein de youtubeurs scientifiques ou des critiques musicales ou plein de choses comme ça, mais qui sont constructives. Et sur Internet, il y a par exemple Wikipédia ou plein d'autres sites qui aident énormément.
Malheureux.
Qui aident énormément à apprendre vite. Et il y a plein de sites, pas seulement Wikipédia justement, qui peuvent aider à ça. Donc, ma question, ce serait, est-ce qu'il y aurait un moyen d'aider les parents à se rendre compte que Internet est un outil formidable?
Parce que toi, tu as l'impression, est-ce que c'est le message qu'on t'a donné, notamment, à quel âge tu as eu un portable, Edouard?
J'ai eu mon premier portable quand j'avais 11 ans et mes parents m'ont appris à m'en servir.
Parce que voilà, je pose la question parce que est-ce que toi t'as le sentiment qu'on a l'impression dans une certaine génération, alors je sais pas à quel moment ça commence, mais que c'est le grand Satan Internet, en gros, attention, tu verras les pédophiles rôdent, etc. Est-ce que t'as l'impression qu'on dit ça trop souvent finalement aux ados, aux enfants en tout cas, c'est ça l'idée?
Alors, on ne le dit jamais assez souvent parce que justement, il faut prévenir que sur Internet, il y a plein de choses qui sont mauvaises, la pornographie, plein de choses comme ça, que ce n'est pas une représentation de la réalité, que parfois, il y a des gens mal spammés sur Internet et que c'est une très mauvaise idée de leur faire confiance de manière générale. Et non, je pense qu'on ne le dit jamais assez et que c'est tant mieux de le dire et que justement, les adultes doivent être là pour accompagner leurs enfants ou leurs adolescents, justement, pour leur apprendre à utiliser le téléphone et uniquement, donc, comme je l'ai appris, avoir ses bons côtés. Il y a des mauvais côtés qu'on doit prévenir les enfants et les adolescents sur ça, mais il y a énormément de bons côtés pour peu de mauvais côtés.
Et bien sûr, il a raison, Edouard Samuel Comblet ou Boris Mananti, il a raison, évidemment. L'éducation, ça marche dans les deux sens. Hein. Nous aussi, les vieux, on a besoin de temps en temps qu'on nous dise deux, trois trucs.
Et le smartphone est un outil formidable qui regroupe plein d'outils préexistants, c'est un accès au savoir, à la culture énorme. Quand on va sur les catalogues de plateformes de streaming, on peut accéder à toute la musique récente ou passée, donc les musiques aussi de nos parents et de nos grands-parents, et découvrir tout ça, toute cette richesse de catalogue en quelques clics. Sur le savoir, il y a que Wikipédia qui a été cité, mais il y a beaucoup d'autres sources.
D'autres.
Et les youtubeurs qui traitent d'histoire, qui traitent de matières scientifiques ou autres, sont hyper riches en savoir à transmettre.
Ce qui est compliqué, Samuel Comblet, c'est le moment où on se sent largué, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir peur, probablement,
exactement,
de ce qui se passe sur le portable du gamin.
Exactement. C'est ce que j'allais vous dire. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Autant se servir de ces compétences acquises par les jeunes et leur, je dirais, leur naturel, leur intuition pour pouvoir utiliser ces applications de manière totalement très facile, beaucoup plus que pour nous, en tant qu'adultes. À l'association e-enfance, on gère une ligne d'écoute qui s'appelle Net Écoute. Je vais me permettre de donner le numéro de téléphone parce que c'est un endroit où les adolescents, les parents peuvent appeler. C'est le 0800 200 3x0. Et on a beaucoup de parents qui nous appellent pour nous raconter qu'effectivement, ils sont très apeurés de la façon dont les jeunes peuvent utiliser leur portable, dont la façon dont ils peuvent avoir accès au savoir. Et quand on leur demande un petit peu plus, on se rend compte qu'en fait, ils ne savent pas du tout ce qui s'y passe et qu'ils auraient besoin peut-être, pour se rassurer, déjà de prendre ne serait-ce que 10 minutes pour regarder à quel jeu ils jouent sur leur téléphone, à quel site ils ont accès et se rendre compte qu'en fait c'est pas si dramatique que ça. Et vraiment, je trouve que le témoignage d'Edouard est très parlant, d'utiliser cette connaissance et qu'il y a une réciprocité, un échange de connaissances.
Sylvain, c'est vous le dernier, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci bien à vous. Moi en fait je voulais revenir sur l'âge à laquelle on a tendance à laisser le téléphone. Avec ma compagne, on avait mis 11 ans. de rapport au fait qu'ils rentrent au collège et qu'ils ont des heures qui peuvent être supprimées ou bien même décalées. Mmh. Donc du coup, c'est toujours intéressant de recevoir un petit coup de fil pour ne pas s'inquiéter. Et revenir aussi sur la possession du code. Alors oui, on l'a, et non, on s'en sert jamais, parce qu'on laisse nos enfants venir vers nous, d'eux-mêmes. En fait, on leur a fait comprendre qu'on s'intéressait à tout ce qu'ils faisaient sur Internet et ci et ça. Après, l'âge sur les réseaux sociaux, elle est plus loin que l'obtention du téléphone. Et du coup, en fait, on n'a pas à aller piocher, se vérifier, les espionner, puisque du coup, on leur a fait comprendre qu'ils pouvaient rechercher d'eux-mêmes et venir vers nous dès qu'ils avaient un doute ou quoi que ce soit, et ça se passe bien comme ça.
Et du coup, ça vous rassure, en fait, j'imagine, au fond, en fait
Ça nous rassure, oui, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent. Maintenant, faut pas non plus rentrer dans une psychose.
Est-ce qu'ils vous appellent réellement quand les cours ont changé ou pas, sérieusement? Avec
jusqu'à
le portable.
Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème. On a la plus jeune qui a un téléphone à l'heure actuelle. Il y a eu, là, ces derniers temps, des heures qui ont été décalées. Elle est venue nous voir en disant, je commence plus tard, mais est-ce que vous pouvez m'emmener quand même à la même heure que d'habitude pour que je puisse profiter avec mes copines? Donc, on lui a laissé un petit peu de lest, on va dire. Mais du coup, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de surprise, quoi.
Eh ben écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, évidemment, de ne pas avoir de surprise. Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Boris Mananti, il faut avoir confiance dans le gamin. Exactement. À qui on donne son portable. Et effectivement, les codes quand on est en sixième, c'est une chose. Quand ils sont en seconde ou en terminale, c'est évidemment autre chose.
On peut mettre quelques règles aussi. Il n'y a pas de mal à mettre quelques règles au départ de pas de portable à table, pas de portable la nuit, par exemple, dans la chambre à coucher. Mais ces règles vont évoluer avec le temps. Si il y a des temps limités, ils vont évoluer avec...
Et les règles qu'on transmet aux enfants, il faut les appliquer soi-même quand on est adulte, parce que sinon, il n'y a pas de cohérence.
Quand je pense que j'ai dit il y a une vingtaine d'années, je ne téléphonerai jamais dans la rue. Je vais vous laisser quand même sur ce message de Nat sur Twitter qui dit, moi, quand je suis rentrée en sixième, j'étais contente parce que j'allais avoir une carte orange. Et vous ne savez peut-être pas ce que c'était qu'une carte orange, mais moi aussi j'en ai une, c'est l'ancêtre du Pass Navigo, et c'est vrai que c'était ça, notre sésame pour aller à Paris notamment. Allez, merci beaucoup, merci à tous pour les questions et portez-vous bien.
Merci.